Voilà, bonjour à chacun. Pendant ce temps de prière, là, juste avant, j'avais cette pensée. J'étais un petit peu sur un champ de bataille. Il y avait Élie et son serviteur, vous connaissez bien l'histoire. Et le serviteur qui voit ce qu'il y a autour de lui et qui se dit, en fin de compte, il est en train de flipper grave comme il faut. Et il se dit, mais au secours, j'entends, qu'est-ce qui se passe? J'entends, on n'est pas assez nombreux. Et Élie fait cette prière, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et à ce moment-là, les yeux du serviteur s'ouvrent. Et il voit les nuées, les armées qui sont autour d'eux et qui sont en bien plus grand nombre que l'adversaire qui est en face. On aurait pu raconter au serviteur de Dieu un tas de choses, lui expliquer un tas de choses. Ça aurait été sympathique pour lui, ça lui aurait peut-être fait du bien. Si j'essaie de vous raconter les paysages qui sont dans la nature ce matin, le rayon de soleil lorsqu'on s'est levé, que j'essaie de vous raconter la beauté de la nature, on est dans une pièce ici fermée, je vais avoir de la peine. Par contre, lorsque nos yeux s'ouvrent, plus besoin de raconter quoi que ce soit. Si vous sortez tout à l'heure, vous allez au bord du lac, vous allez un petit peu monter, s'il y a un rayon de soleil, vous allez tout de suite voir de quoi je suis en train de vous parler ce matin. Le serviteur aurait pu croire un tas de choses s'il n'avait pas vu les armées, il n'aurait pas franchi un pas important. Ce matin, ma prière pour nous, pour moi, pour vous, c'est qu'effectivement nos yeux s'ouvrent. Pas que je sois en train de vous parler de quelque chose que vous connaissez probablement, mais d'essayer d'éveiller votre conscience et que par le Saint-Esprit, vos yeux s'ouvrent un petit peu plus. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose, mais peut-être centrer votre regard ou essayer d'attirer votre attention sur quelques aspects. Ce matin, c'est vrai, c'est Jésus crucifié. Tu l'as dit juste avant, c'est le cœur, c'est le départ, c'est l'essence même. Si on n'a pas perçu ce que représente Jésus crucifié, on est juste dans des fables, on est juste dans des choses qui sont terre à terre, on n'est encore pas comme il faut. Ouais, c'est pas grave, hein. Ça reste le format qui est pas fini. C'est la troisième fois que je viens, vous avez du courage. Mais je poursuis des pensées, je suis dans une certaine forme de logique, parfois lorsque je me dis, bah, tiens, on va aller à l'évol ce matin, comment continuer, comment poursuivre avec vous certaines choses. La première fois, on avait parlé effectivement de croire ou de naître, des choses qui étaient fondamentales. Après, on a pu effectivement regarder ce qu'il en était entre connaître et la nouvelle naissance, naître d'eux. Aujourd'hui, c'est une autre pensée que je partage avec vous. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je vous laisse regarder l'image une seconde. On parle de choses. On croit des choses. On imagine des choses. Là aussi, on se fait une idée d'eux. Je ne suis pas un fan de l'hémoglobine partie pour le fun. Cette photo-là est tirée d'un film qui s'appelle La Passion. Peut-être certains d'entre vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu. C'est un film qui a fait polémique, justement pour le côté un petit peu hémoglobine ou dur. Il est juste insoutenable. Je l'ai enregistré. Je suis incapable de le voir deux fois. Je l'ai vu une fois. J'ai eu les tripes à l'air. J'ai pleuré grave parce que je me suis dit, mais en fin de compte, une crucifixion, c'était ça. Quelle que soit la traduction cinématographique qui peut être faite, la réalité devait être encore pire. Je n'ai voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus crucifié, si on mesure un tout petit peu le prix que ça a coûté. Jésus n'a pas été la seule personne qui a été torturée pour sa foi. Mais lui, c'était quand même particulier. Il n'avait commis aucune faute et il était simplement en train de mourir à ma place. Que je crois qu'il soit mort à la vôtre, ça ne va pas m'aider. Si je n'ai pas compris qu'il était mort pour moi, je suis juste encore au stade de je ne sais pas quoi. Mais je n'ai pas compris. Il va trop vite. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Est-ce qu'on imagine ce que c'est que la puissance de Dieu? La bombe atomique, c'est juste un pont en l'eau. C'est rien du tout. La puissance de Dieu. Là, il n'est pas dit la puissance de Dieu, il est dit une puissance, probablement parmi d'autres. Mais la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Rien n'est comparable sur la surface de la planète que cette puissance-là. Quel effet elle a eu dans ma vie? Cette puissance-là a permis que je passe de la mort à la vie lorsque j'ai réalisé ça. Cette puissance-là, elle m'a permis d'être affranchi, de passer de l'esclavage à la liberté. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Cette puissance-là m'a permis de passer de la religion à la relation. J'avais déjà évoqué ça la dernière fois. Des choses qui sont dans notre ambiance, mais d'être en relation avec le Christ, de le connaître. De passer de la croyance à la naissance. Des espaces qui sont fondamentaux, qui sont vraiment, on n'y pense pas, mais c'est des choses qui sont tellement différentes l'une de l'autre. Et passer de la connaissance à l'expérience. Savoir dont je parle, de quoi je parle, c'est une chose. Mais le vivre. Connaître la puissance de Dieu dans nos vies. C'est quelque chose qui est juste incroyable. Là, je dois remettre une minute. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. C'est fort comme parole. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est une drôle d'expression, il a plu à Dieu. Imagine Dieu, tiens, ça me ferait plaisir de faire un truc comme ça. Je vais réfléchir. Il a plu à Dieu, il a choisi. Je trouve cette chose extraordinaire. Dieu a voulu, Jésus dit comme ça, je te loue Père de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, puis que tu les as révélées aux enfants. Il a plu à Dieu de faire des choix, il a regardé ce qu'il avait créé, il a regardé tout ça, puis il a dit, c'est bon, c'est très bon. Ça lui plaît. Il est content de son œuvre. Il a plu à Dieu, il a fait ce choix-là de venir déranger toute notre organisation intellectuelle par la folie de la prédication. C'est un choix. On aurait pu faire autrement. C'est son choix à lui et il est venu mettre un défi, nous soumettre à des tensions énormes. Et on le voit. Cette prédication, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Aujourd'hui encore, on a « Ah, si je voyais Dieu agir dans ma vie, ou bien si j'étais guéri, ou bien s'il se passait ceci, mais en fin de compte, si Dieu existait, qu'est-ce que ça serait? Ça serait pas comme ça. » On est à la recherche encore perpétuelle de ces choses-là. D'une manière de recherche de sagesse, on va vers la philosophie, on va vers la psychologie, on va vers les grands intellectuels qui vont nous raconter ce qu'est le sens de la vie, qui vont nous faire des théories à l'image de l'homme. Ça décolle pas. Et nous, on va avoir la prédication de Christ crucifié. Évidemment, pour les uns, ça va être un scandale. Même pour moi, à un moment donné ou à un autre, le scandale de la croix, c'est une parole qui dit, hein, le scandale de la croix, c'est un truc qui est fou pour notre intelligence. Comment imaginer la prédication de la croix d'un Dieu qui se veut être un Dieu d'amour et qui est un Dieu sanguinaire, qui va effectivement donner son Fils, qui va permettre ça? C'est juste un scandale parce que notre intelligence n'arrive pas. On ne peut pas raconter ces choses-là. Le Saint-Esprit peut ouvrir nos yeux sur cette réalité-là. Mais essayer d'en faire une démonstration intellectuelle, c'est juste une folie. Cette sagesse-là, cette folie, c'est juste pas possible. Nous, Par opposition, on prêche une puissance de Dieu et une sagesse de Dieu qui vient défier tous nos concepts humains. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est par ces choses faibles que Dieu a voulu mettre en échec les prétentions humaines. Par des choses petites, par des choses viles, par des choses sur lesquelles on ne portait pas le regard, mais c'est ça, de cette manière-là, que Dieu a choisi de venir contrer toutes nos prétentions, toutes nos velléités de nous élever par nous-mêmes auprès de Dieu. Il a plu à Dieu de faire que ça, comme ça. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Ces textes qu'on lit comme ça, c'est par lui et par Dieu. C'est son œuvre. On sait effectivement qu'on est sous la grâce, et on le verra encore tout à l'heure. Mais c'est par lui que ces choses-là ont été vécues pour nous, pour moi. Appropriez-vous réellement, pas d'une manière, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On est une communauté ce matin, on est en groupe, on est plusieurs. Mais individuellement, quelle est la perception que j'ai de ce sacrifice qui a été fait pour moi? Tout ça a été fait pour moi. Encore vous auriez été parfait, que j'aurais été le seul pécheur sur la terre, Jésus aurait dû mourir pour moi. C'est ce tarif-là. On n'échappe pas à cette réalité-là. Il a été fait pour nous, pour moi, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Comment ces choses ont pu se faire? Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Nous avons un héritage, nous avons un patrimoine, nous sommes arrivés en 2017 par toute une succession. On est né dans le péché, on a hérité de notre manière de penser, on a hérité de notre culture. Vous avez hérité de votre culture d'assemblée de Dieu, de l'espoir. Moi j'ai hérité d'une culture catholique parce que je viens de ce milieu-là. On a tous hérité d'une vaine manière de vivre, de concepts, de religion, de croyances. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Rien de ce que nous avons essayé de faire avant pour être bien, pour faire des efforts ou quoi que ce soit, rien n'est suffisant. On a été racheté, on lui appartient. Ce n'est pas par des choses périssables. Le foin, la chaume, de la terre, des trucs avec lesquels on pourrait construire quelque chose, non. Pas des choses périssables qui aujourd'hui existent et qui demain n'existeraient plus, non. Racheté par des choses qui sont perpétuelles, éternelles. Le sacrifice de Jésus est quelque chose qui dure dans le temps. Le sang de Jésus est quelque chose qui est sur notre vie en permanence. Ça ne s'arrête pas, ça ne périt pas, ça ne s'atténue pas, ça ne disparaît pas, ça ne diffuse pas. Ce ne sont pas des choses qui sont périssables. C'est des choses qui durent. C'est ce sang précieux de Christ qui me couvre, qui nous couvre. C'est ce prix-là, c'est ce sacrifice-là. Comme dans l'Ancien Testament, comme dans d'autres situations, ce sang de Jésus, c'est ce sang au travers duquel Dieu me voit aujourd'hui. Et ça ne change pas. Ça ne s'altère pas. Ça ne diminue pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est une réalité. C'est pas une croyance. C'est pas un credo. C'est pas un dogme d'une église ou d'une autre. C'est juste une réalité. Prédestiné, manifesté à cause de vous, prédestiné avant même que le monde n'existe, il m'a plu, je vous ai choisi. Pourquoi moi et pourquoi pas l'autre? C'est une question qui restera dans notre intelligence juste limitée. J'ai souvent pensé que si on arrivait à comprendre la pensée de Dieu, on aurait un tout petit Dieu. Donc de ne pas comprendre certaines choses, ça ne me pose aucun problème, voire même ça me rassure. Prédestinés, manifestés, ces choses-là ont été manifestées pour qu'on puisse nous les vivre aujourd'hui. On a entendu dans certaines prières la reconnaissance qu'on a de pouvoir être ici ce matin, à lever les yeux, puis à saisir, à s'approprier un petit peu que on est au bénéfice de la grâce de Dieu. C'est juste un truc de dingue. C'est pas religieux, c'est pas une mode, c'est juste une réalité. J'y arriverai, hein. Voilà. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quand on regarde le sacrifice de Jésus, quand on est en train de communier, de prendre ce pain, de prendre ce vin, nous disons certaines choses. Mais c'est bien d'un seul coup de s'arrêter une seconde et puis d'ouvrir les yeux et de regarder un petit peu l'éventail de ce que cela représente. Et de l'impact que ça va avoir dans ma vie au quotidien. Pas simplement le dimanche matin, parce qu'on est sympa de célébrer la Sainte Cène, mais quel est dans mon quotidien, dans les circonstances de vie qui sont les miennes, l'impact de cette réalité-là? Il m'a rendu à la vie. Il ne m'a pas rendu la vie. J'ai été frappé en lisant ce petit bout de machin-là. Il nous a rendu à la vie. La vie existait, on a été séparés de la vie, arrachés à la vie, et Christ, en nous rachetant, nous prend d'ici pour nous rendre à la vie. C'est un truc qui m'a paru bizarre. C'est pas qu'il m'a rendu la vie de mort que j'étais. Il nous a rendu à la vie. Il est venu nous arracher, il est venu nous chercher là où nous étions pour nous ramener à la vie. Il est la vie. C'est un truc, il y a vraiment un changement radical, il y a un déplacement, il y a une œuvre au travers de la croix qui est juste extraordinaire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Cet adversaire, cet accusateur de nos consciences, il sait, on dit c'est le père du mensonge, il est menteur de tout le temps. Mais un menteur n'est pas quelqu'un qui invente des trucs qui n'existent pas. Parce qu'on n'est pas fou. On verrait. Non, le menteur, c'est celui qui donne juste une partie de la vérité. Dans ces actes qui nous accusent, notre mémoire est ainsi faite que vous ne pouvez pas, vous, effacer de votre mémoire, de votre disque dur, les choses que vous avez faites. J'ai qu'à simplement évoquer votre passé pour que des images montent de votre passé, de ce que vous étiez avant, et de cette conscience que vous avez, de ce que vous avez été dans le temps. Et puis qu'on pourrait peut-être fouiller, mais quand même, tu te rends compte de ce que tu as fait dans le temps. Ça a été effacé, l'acte qui nous accuse. On peut effectivement, quelqu'un disait, lorsque Satan vous parle de votre passé, répondez-lui sur son avenir à lui. Nous avons une attitude, une possibilité de dire « Stop, ça a été effacé. Moi, dans mon intelligence, je m'en rappelle. Mais je sais qu'aux yeux de Dieu, au travers du sang de Jésus, ces choses ont été effacées. Rien ne subsiste contre moi lorsque je suis ici avec vous. » Qu'on est en train de dire « Seigneur, comment prétendre être en communion avec Dieu s'il y a encore un soupçon de choses qui sont sales en nous ?» Si Dieu ne nous voyait pas parfaits, comment pourrions-nous prétendre être dans sa présence? Ça serait juste impossible. Donc le moment où nous disons « Seigneur », ben on a le sentiment qu'il nous écoute. Si on écoute, c'est qu'on est dans sa présence. Si on est dans sa présence, c'est qu'on est juste saint, parfait, à ses yeux, pas aux nôtres. Et regardons-nous comme Dieu nous voit, pas comme on se voit. Il a dépouillé les dominations des autorités en triomphant d'elles par la croix. On a parlé de puissance. Il a dépouillé les autorités. Elles n'ont plus, elles, aucune puissance sur nous. Combien de fois on entend dans le langage des uns et des autres, tu comprends, c'est plus fort que moi. J'ai chuté, je demande pardon. On s'excuse. C'était plus fort que nous. La tentation était un peu forte. C'est juste une bêtise monumentale qu'on dit. On se cherche des excuses. On se cherche un alibi. Tu comprends, c'était plus fort que moi. Mais qu'est-ce qui peut être plus fort que nous? Les puissances n'ont plus juste aucune puissance contre nous. Dans votre quotidien, dans mon quotidien, régulièrement, j'ai à choisir. J'ai à entendre ce qui me dit « Dieu a-t-il vraiment dit que ?» et à répondre à des autres choses de cette manière-là. Il a dépouillé les puissances en triomphant d'elles par la croix. Toutes les prétentions et tous les mensonges que vous avez dans votre conscience sur un truc ou sur un autre sont juste des mensonges parce que c'est juste pas la vérité. La parole est la vérité. Pardon. Je reviens encore un petit coin en arrière. Ayant anéanti par sa chair des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il y a une référence qui est faite là, puis je l'aime bien. Elle n'est pas forcément pour ma vie personnelle, parce qu'il est fait référence là en faisant des deux un seul homme. Il y avait quand même au temps de l'Évangile, au temps de Jésus, avant sa mort, une inimitié, une séparation totale entre les Juifs, peuple de Dieu, peuple d'Israël, et les païens. C'était juste quelque chose qui n'était pas bien. Jésus est mort. Pour réunir les deux, il n'y a plus juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Cette parole-là, elle est certaine, elle aussi. Il a voulu réconcilier. Et je trouve important, parce que je fais juste une aparté qui est... je ne crois pas que c'est mon interprétation. L'Église, dans son histoire, s'est appropriée parfois la vocation du peuple de Dieu. Ce n'est pas parce que Jésus a été crucifié par des Juifs à un certain moment que Dieu s'est détourné de ce peuple pour se tourner vers l'Église et choisir l'Église comme son peuple. L'Église est son épouse. Le peuple d'Israël reste ce peuple choisi par Dieu, au travers duquel il va encore se manifester. Il a réuni les deux. Nous avons, nous, le privilège d'avoir été rachetés, d'avoir été adoptés, d'avoir été greffés et d'être réunis les uns avec les autres. Le miracle de la croix a fait quelque chose que l'homme ne peut pas faire, de réunir, et aux yeux de Dieu, les uns et les autres sont plus qu'un seul et même homme. C'est une pensée qu'il faut garder, parce qu'aujourd'hui, donc 15 janvier, j'ai cru comprendre par des informations qu'il y a à Paris une rencontre où 70 pays sont en train de se réunir pour voter une mention qui ordonnerait, qui exigerait, qui imposerait à Israël de restaurer les limites de ce pays qui date de 1967 après la guerre des six jours. Les tensions politiques qui sont actuellement celles qui existent autour du Moyen-Orient et d'Israël nous mettent en évidence qu'on est en train de vivre à l'horloge de Dieu. Et que ces tensions qui existent encore entre le peuple d'Israël et tous ces peuples qui se croient civilisés, qui veulent imposer à Israël une vocation, une limite dans le temps, dans la géographie, dans l'histoire, dans la politique, sont juste en train de faire les mêmes choses qu'il y avait il y a 2000 ans. Pensons aujourd'hui, quand vous regardez le journal, la vocation du peuple d'Israël, c'est de nous dont il est question. Nous avons été greffés. Nous appartenons, c'est notre histoire aussi qui est en train de se dérouler. Donc soyons attentifs dans les positions, je ne fais pas de la politique, mais je suis content de dire l'attention qu'on doit porter à ce qui se vit en Israël en ce moment. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ignorez-vous. Il était question tout à l'heure, lorsque tu parlais, de revenir à la croix. C'est une expression qu'on entend, revenir. Combien on a effectivement la possibilité de s'en écarter? C'est drôle qu'on doive revenir à la croix. qu'on doive faire ça en souvenir des fois qu'on oublie. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, je ne sais pas à qui je prêche ce matin, je ne sais pas ce qu'est le baptême dans votre vie. Si vous avez dit un jour, « Ouais, j'ai été baptisé quand j'étais petit, mais ce n'est pas nécessaire. » Ou « Non, 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 le baptême, oui, non, non. » Peut-être, il y a des gens qui pensent comme ça, le baptême. On découvre dans le temps qu'il y a des gens qui se font baptiser, ils ont 60 ans. Nous, on a eu le privilège de baptiser une personne au printemps passé, 87 ans. Ben, ce n'était pas d'aujourd'hui qu'elle était chrétienne. Mais 87 ans, bon, on l'a mis dans une piscine, on ne l'a pas mis au lac. Nous avons été baptisés, pour autant que nous l'ayons été. Mais si nous pouvons nous réclamer de ce baptême, c'est effectivement nous réclamer de toute la puissance d'un Christ crucifié et d'un Christ ressuscité. Nous sommes passés de la mort à la vie, ce baptême-là vient l'attester. Et devant les puissances, devant l'Église, devant quoi que ce soit, devant qui que ce soit, devant vous, même dans votre conscience, moi j'ai une alliance qui, encore quand je suis tout seul, c'est le témoignage de mon mariage avec ma femme. C'est pas ça mon mariage. Mon engagement auprès de ma femme n'est pas dans cette bague. Mais de m'être engagé, d'avoir un geste qui est manifesté, mon engagement pour ma femme, ça c'est quelque chose qui confirme, qui exprime, qui témoigne. Le baptême, dans notre histoire de chrétien, doit être revisité si ça peut être fait. On ne peut pas passer à côté. C'est tellement, tellement important. C'est une chose qui a été dite à tout le monde. Repentez-vous, soyez baptisés. Dans tout le début du livre des Actes, vous voyez tout le temps, ils ont cru, pouf! C'est pas, attends, on va t'enseigner, puis quand tu auras bien tout compris, tu te feras baptiser. Non, si tu crois, tu te fais baptiser, les choses découlent de cet engagement. Moi, le jour où je me suis marié avec ma femme, je ne la connaissais pas encore comme je la connais maintenant. On a construit notre mariage à partir du jour où on s'est marié. On n'a pas attendu de se connaître, d'avoir fait 4 enfants pour dire, tiens, finalement, ça marche, on va se marier. Non. L'engagement, la confirmation de notre engagement par le baptême est une chose, c'est un acte d'obéissance, parce qu'il découle de cette puissance-là des choses qui sont importantes pour nous. C'est en sa mort qu'on a été baptisé. C'est fondamental, je peux croire que Christ est mort pour moi, mais est-ce que je vais passer par les eaux du baptême pour dire « Moi aussi Seigneur, je revendique, je me réclame de ta mort, et je l'ai montré, je l'ai attesté, je me suis engagé. » Afin de marcher en nouveauté de vie. Et on va le voir. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Combien de personnes... On se dit, mais en fin de compte, j'aimerais vivre plus. J'aimerais expérimenter des trucs vraiment... puissance de Dieu, j'aimerais voir des choses se manifester dans ma vie. Mais comment imaginer qu'on va vivre en nouveauté de vie si on n'a pas été conforme à la mort? Et la mort, ça pue. C'est pas un truc qu'on aime. Parler du Christ crucifié, c'est un truc qui dérange. Cette photo, moi, m'a dérangé. Parce qu'elle ne me laisse pas tranquille. Elle me dit, est-ce que je vais laisser ce sacrifice, le tarif, ce que ça représente, être... perdre de sa nature, rendre stérile la mort de Christ, qu'il soit mort comme ça, pour que ça ne me serve à rien. Vous imaginez le scénario, vous pourriez rester ici debout en disant, non, non, c'est sympa, mais là, moi, je ne vais pas, non, 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 non. Et Jésus qui est mort pour vous, pour toi, pour moi, dire, non, pas ça. C'est juste insupportable à notre conscience. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Pour votre vie de tous les jours, pour ma vie de tous les jours, si je veux vivre en nouveauté de vie, ça passe par c'est le début, c'est le cœur, c'est l'essence même. Sans ça, vous enlevez ça, il n'y a plus rien. Jésus aurait dit des belles paroles, Jésus aurait fait les miracles qu'il a fait. Si c'était arrêté à ça, ben on ne serait juste pas là. Ça ne nous aurait servi à rien. Jésus se serait tu, n'aurait fait aucun miracle, mais serait venu mourir à la croix, c'était juste suffisant. Il a fait ses miracles pour attester qu'il était le Fils de Dieu, que Dieu était avec lui, et qu'en mourant à la croix, il était juste cet agneau sans tache. On pouvait vérifier effectivement que c'était le sacrifice suffisant. Plus, ça ne servait à rien, et moins, c'est juste plus rien du tout. Il fallait ça. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. C'est pas... Ça serait sympa. On peut imaginer que, voilà, ça pourrait être des belles choses, on peut y croire. Oui, c'est sympa d'y croire, mais quand même, c'est pas autant que ça. Non. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, et si nous l'avons accepté, si par en conformité nous avons été baptisés, nous pouvons nous réclamer, oui, je fais partie de cette famille-là. Vous savez, dans le temps, quand il y avait des persécutions dans les Cévennes, on a visité une fois le musée du désert. Hein. Pour pouvoir venir dans une église et participer à la Sainte Cène, il fallait avoir des petites choses comme ça qui attestaient qu'on était bien chrétien. Parce qu'il y avait de l'infiltration d'espions, il y avait des persécutions, donc des gens cherchaient à infiltrer les églises. Il fallait montrer un petit truc. Alors là, c'était un petit truc comme ça. Nous, nous pouvons montrer devant Dieu et devant les puissances que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Jésus. Qu'il y a sur les linteaux de notre vie un signe, on est, on l'a signifié, on l'a manifesté, c'est visible, on a témoigné de cela d'une manière particulière. Donc si nous sommes morts avec lui, c'est une parole certaine. C'est pas simplement si je le crois, c'est si je l'ai exprimé, si je l'ai manifesté. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Cette succession de si, elle est fondamentale. Elle n'est pas folle, il n'écrit pas à des païens. Hein. Il n'écrit pas à des païens, il écrit à des gens, Timothée, les Galates, les Romains, etc., etc. Il a le culot de leur dire, mais si, pour autant que, qu'est-ce qui va découler de cela ? Pierre dit, lorsque, à la Pentecôte, il est en train de parler à des gens, il est en train de les interpeller, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On a une perception de la repentance qui est parfois, j'ai péché, il faut se repentir. On a alors là une culture héritée de toute la tradition de nos religions et de nos églises, où la repentance participe à l'idée de « je reconnais que j'ai péché et puis je me repens ». Personnellement, je ne me suis pas converti en ayant conscience de mon péché. C'est venu juste après, quelques temps après. Je me suis converti parce que j'ai eu un choix de changer de vie. J'avais ça, j'ai choisi ça. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. La conscience du péché, elle n'est pas forcément la première révélation qui nous arrive. La repentance, c'est un mot qu'effectivement, j'imagine tout à fait, il s'est passé ceci, et Pierre leur dit, mais changez de vie. Changez de vie. Et que chacun de vous soit baptisé dans la mesure où il va exprimer ce désir visible, oui, j'ai changé. De ce que j'étais là, je passe à ça. Ce que je faisais, je ne vais plus le faire. Je ferai ça. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas le don du Saint-Esprit, comment imaginer qu'on va pouvoir vivre cette nouveauté de vie ? C'est juste pas possible. C'est pour ça que même la conviction de péché, le Saint-Esprit va nous la donner. C'est pour ça que lorsqu'on entend un message et puis qu'on se dit, je veux changer, enfin, ce que tu m'offres là comme message, comme style de vie, j'ai envie de ça, je veux choisir ça. Ok, je change de vie. Je me fais baptiser, je reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Et le Saint-Esprit m'ouvrant les yeux, là, la conviction de péché s'installe. La révélation de la grâce s'installe, la révélation du sacrifice de Jésus s'installe. Mais au départ, Jésus a besoin de changer de vie. Changer de la vie héritée de nos parents, de cette manière qu'on avait de faire un tas de choses. Aujourd'hui, dans certains domaines que vous connaissez, vous pouvez changer de vie aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut mettre sur votre cœur et dire, non, ça, je peux changer. J'ai encore là une habitude qui traîne depuis un certain temps. Puis j'y pense régulièrement, puis ça m'enquiquine, puis ça... Parfois, je m'en coupe les pieds dans le tapis. On tombe. On se relève. On retombe. On se relève. Il y a des trucs sur lesquels le Seigneur peut aussi vous révéler aujourd'hui qu'un changement de vie est réellement possible. Si. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions, c'est ce que je viens de dire avant, alors, l'esprit vient nous révéler. L'esprit vient nous ouvrir les yeux pour que vous sachiez ces choses-là. Moi, je ne vais pas vous raconter le paysage de l'autre côté du lac, la beauté de la création. Je ne peux juste pas. Mais si les deux, on est ensemble comme ça, en train de regarder un paysage extraordinaire, ben on va se taire. Si on va au creux du vent... Je ne vais pas me dire, oui, t'as vu. On va me dire, écoute, tais-toi, laisse-moi regarder. Parce que ça vaut la peine. Et qu'on ne va pas regarder les mêmes choses. Mais on est juste en train de regarder le même paysage. Et quand on en parle, on se rend compte qu'on parle de la même région, du même paysage. Mais qu'aujourd'hui, je regarde ça, et puis toi, tu regardes ça. Puis qu'on peut s'enrichir mutuellement. Parce qu'on n'arrive pas à tout voir d'un coup. Mais ouvrons les yeux afin de voir, de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le verset qui suit, je l'aime bien. Après, j'aurai fini. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Christ Jésus a été peint comme crucifié ? Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? C'est la parole de conclusion de mon message de ce matin. Combien sommes-nous insensés ? Nous qui ce matin parlons de Christ crucifié. On essaie en train de se dire, mais Seigneur, ouvre les yeux pour que je puisse voir un petit peu ce que ça représente. L'impact que ça peut avoir dans ma vie. La grâce que tu m'as fait. Et on va peut-être sortir d'ici en disant, tiens, je vais prendre une bonne résolution, c'est le début de l'année. Hein. Et on va se priver de la grâce par tout un tas de bonnes volontés qu'on va avoir en pensant qu'on va pouvoir, par ce qu'on fait, être mieux. On a une aptitude incroyable d'entendre certaines choses, de croire certaines choses. Et d'être foutu de construire encore un légalisme dans notre expression de foi. C'est impressionnant d'être arraché à la vaine manière de vivre de nos pères. Mais oui, on a été libérés. Mais un petit peu comme les Israélites, on n'était peut-être pas si mal que ça en Égypte. On a une capacité dingue. Et cette conclusion de message, c'est de se dire, si ce matin on goûte un tout petit peu à la grandeur, à la puissance que la croix peut avoir dans ma vie, maintenant, c'est comment me saisir de la grâce que ça représente. Que tout ce que j'ai reçu, tout ce que je peux vivre, n'est que la grâce de Dieu, parce que lui a payé cash pour moi. Tout ce que je peux rajouter à ça, c'est quelque part me priver de la grâce de Dieu en pensant que je vais rajouter un petit truc. Et si je pense que je rajoute un petit truc, je rends juste le sacrifice de Jésus stérile. Ça a l'apparence de la piété, mais je suis juste en train de renier ce qui en fait la force. Qu'aujourd'hui nous puissions vraiment, dans la simplicité, dans les contextes, dans les circonstances qui sont les vôtres, dire ça, Seigneur, maintenant, à partir de maintenant, c'est pas « je vais faire un effort ». Je vais juste lâcher prise et reconnaître que c'est que par ta grâce, que parce que tu es mort et ressuscité à la croix, que je peux vivre en nouveauté de vie, dans ce domaine-là particulier. Il y a un domaine. Et je vous remets juste la dernière diapo qui est effectivement cette tension qui a, il a plu à Dieu, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Et puis je vous laisse juste une seconde, allez, 3-4, pour peut-être être en tête à tête et puis prendre cette petite décision dans un domaine, dans un autre. Seigneur, sache ce petit truc là que j'ai compris ce matin, que j'ai entendu ce matin, qui me concerne, eh bien je veux juste le remettre et puis arrêter de me battre pour ou contre, parce que se battre contre, il n'y a rien de pire. C'est un mauvais, mauvais principe. Toutes les luttes dont on a parlé dans l'Église, c'est une mauvaise prédication. Nous n'avons pas à lutter contre les choses, si ce n'est contre les puissances, je suis d'accord avec ça, mais ce n'est pas à ça que je pensais en disant ça. J'ai travaillé pendant 35 ans avec des toxicomanes. Je n'ai jamais demandé à un toxicomane de s'arrêter et de lutter contre le produit. C'est une très mauvaise chose. Lutter contre, les choses sont plus fortes. Vous pouvez remettre ces choses-là à Dieu, vivre pour un objectif qui est intéressant, qui va glorifier Dieu, mais ne passez pas votre temps à lutter contre des choses qui vous embêtent. Ce combat a été mené. Christ a vaincu les puissances. Il les a dépouillées en triomphant d'elles à la croix. C'est la seule chose que vous avez à proclamer sur un domaine qui vous titille pour pouvoir vivre en nouveauté de vie. Vous allez être fatigué à lutter contre, vous allez être frustré, vous allez être des chrétiens tristes. Vous n'allez pas faire envie. Si la vie chrétienne c'est ça, ben mon gars, tu la gardes pour toi, ben ça ne m'intéresse pas. Par contre, si la joie dont on a parlé, la liberté que le Christ nous donne, ça, ça peut faire envie à des gens qui sont en train de se bagarrer et puis qui triment. Ah ben tiens, ça je... Attends, tu fais comment ? Non, tu fais rien. Non, je fais rien, parce que tout a été accompli. Juste un petit, une seconde, pour faire le choix qui est le vôtre aujourd'hui. Seigneur, ta parole est vivante. Qu'au travers de ce qui a été dit et tout ce que toi tu peux rajouter d'une manière particulière pour chacun d'entre nous, dans les circonstances spécifiques, Seigneur, tu nous connais personnellement. Tu veux avoir une réunion, une rencontre, une relation avec nous dans l'intimité de nos vies, de nos cœurs, tu connais toutes choses. Seigneur, que ta parole ne remonte pas à toi sans faire de l'effet, c'est une certitude que nous avons. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit qui donne vie à la parole. Amen.